Hello Camille, c'est Izzy, j'espère que tu vas bien. Je te parle pendant que j'attends ma correspondance. Je ne sais pas si attendre peut être considéré comme une activité qu'on fait en même temps qu'on se parle. Je pense que oui, peut-être. En tout cas, on essaie toujours d'être actif pendant qu'on attend, hein, faire autre chose que regarder des trous en l'air. C'est une expression luxembourgeoise de dire regarder des trous en l'air quand on s'ennuie un peu. J'ai écouté ton petit retour à ma dernière description. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la raison pour laquelle toi tu as été pas si touché par cette vidéo de Grégory Boucher que moi. Enfin, la raison pour laquelle toi tu l'aimes moins et la raison pour laquelle moi je l'aime plus. cette dimension un peu de la défaite et de l'échec que je trouve assez belle à affirmer en fait, comme une fatalité, mais comme quelque chose qui fait partie justement d'un parcours artistique, de tester, d'errer. Et justement, dans la vidéo de Grégory, je trouve assez beau l'enchaînement des plans que j'appellerais plus les plans justement un peu making of, et puis les plans qui sont faits avec l'équipement pro. Je trouvais ça assez juste. Et là, les retours entre fiction et réalité que ça pouvait engendrer me plaisait assez. Attends, je crois que j'ai un problème avec mon truc là. Non, ça va. Bon, désolée. J'avais toute une discussion là cette semaine, notamment avec Benoît Sansfourche, dont je t'ai déjà décrit la dernière fois sa performance du diplôme du DNSAP, sur l'oralité, sur l'écriture et l'oralité, qu'est-ce qu'elle permet, qu'est-ce que elle facilite. Ce que tu me disais justement, cette évolution de ma parole en boucle avec les répétitions, je trouve que justement quand on pour aussi faire le lien avec la vidéo de Grégory, toutes les erreurs qu'on fait, les revenir en arrière, hésiter sur un terme, essayer de le nuancer et pas pouvoir l'enlever comme on fait dans l'écriture, et pas pouvoir lisser comme ça le discours est quelque chose qui parle énormément, en tout cas de notre manière d'appréhender l'art, et puis mais pas que l'art d'ailleurs. On se posait la question de tous ces outils qui étaient toujours interposés. J'en ai parlé aussi avec une artiste, Anna Mermet, que tu connais, qui est à Rennes aussi. L'oralité dans le milieu de l'art, elle est souvent faite via le discours, via la table ronde, parler en public, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Et puis moi, ce problème que j'avais au début, qui était de parler à des enregistreurs et me sentir quand même assez ridicule en parlant à mon ordinateur et à être finalement dans une parole assez figée et protocolaire là pour le coup aussi. Donc on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser encore et encore parce que j'y trouve quelque chose de riche, j'y trouve quelque chose qui répond à cette idée peut-être du non-parfait, du sensible. J'aime beaucoup les « d'ailleurs, comme les gens ils disent tout le temps. J'ai eu une conversation enregistrée et publiée avec Alain Bernardini, cette semaine à Toulouse, où j'ai remarqué qu'il disait beaucoup « et c'est assez agréable, c'est une espèce de mouvement en vague et où la réflexion devient un peu tangible à travers ces moments-là. Et j'ai lu là dans le train, après justement avoir eu cette discussion avec Benoît et cette idée de la répétition dans la parole orale, on s'est dit que... Il m'a proposé, parce qu'il avait écouté l'enregistrement que je t'avais fait, et qui est évidemment un peu approximatif à plein de moments. Et donc il m'a proposé de retourner avec moi à l'École des Beaux-Arts et de me re-raconter sa performance, son diplôme, mais sur place cette fois-ci, sur les lieux, pour être plus précis, pour être plus complet. Et donc j'ai accepté en me disant que j'allais te réenregistrer une nouvelle description de cette même performance que je t'ai déjà décrite. Et par hasard, j'ai lu là tout à l'heure dans le train, j'ai lu un texte de Victor Burguin où il comparait sa pratique vidéo au cinéma et à la peinture, et il disait que bah, finalement l'art s'appréhendait de la même manière qu'il se construisait, enfin en tout cas que c'était l'idéal, c'est-à-dire il disait par accumulation ou par reprise ou justement par couches successives, comme la peinture par exemple se crée. Voilà, que du coup il y a une sorte d'équivalence entre la construction d'une œuvre et sa comment dire, le moment où on détricote un peu les choses et qu'on les assimile. Ce qui était déjà pas mal en lien avec ce que tu me disais aussi dans la manière qu'a Julie Portier d'écrire sur l'art, de nous faire découvrir l'œuvre en tant que spectateur et pas en tant que théoricien universitaire, voilà. Donc on est retourné à l'école des Beaux-Arts avec Benoît. Il m'a donc réexpliqué toute la performance que je vais essayer de te redécrire. Alors il faut pas que je rate mon deuxième train, donc parce que j'ai déjà raté mon avion hier, là j'ai raté ma correspondance, mais c'était pas de ma faute cette fois-ci, c'était la faute de la SNCF. Mais il ne faut pas que je loupe le deuxième coche. Donc Benoît, il a fait son diplôme, donc pas cette année, mais l'année dernière. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup la forme de la performance, mais tout en se questionnant sur ce terme. Il préfère finalement le terme d'action. Il utilisait pendant longtemps le terme d'action discrète, clin d'œil avec l'action directe, évidemment. Est-ce qu'il aujourd'hui, une interview un peu malheureuse alors je me rappelle plus de son nom, mais la personne qui faisait partie de ce groupe et qui a été libérée récemment, il avait dit quelque chose sur les islamistes qui avait été pas très bien apprécié. Donc aujourd'hui il aime plus trop utiliser ce terme qui est quand même un peu connoté et le place en tout cas dans un certain contexte. Il utilise aujourd'hui, alors moi je vais proposer le terme de geste mais au pluriel parce que je pense que c'est assez juste, parce que c'est une sorte de suite de gestes qui sont signifiants dans un espace donné et avec une parole qui va avec. Et lui, il préfère le terme, enfin en tout cas en ce moment, c'est quelque chose qui se pose comme question d'action en définitive. Pas dans le sens que c'est définitif, mais que ce serait quelque chose qui pourrait être considéré à chaque fois comme un aboutissement des réflexions qu'il y a eu avant. En tout cas, c'est comme ça que j'ai cru le comprendre, et quelque chose qui serait de l'ordre de la définition d'un geste dans un espace donné. Je le dis sans doute très très mal, mais Benoît, il me fera sans doute un retour là-dessus s'il me réécoute. Donc tu te rappelles, Benoît, il avait commencé par descendre en rappel le long de la façade de l'entrée de l'École des Beaux-Arts de Toulouse, en s'arrêtant à un niveau à peu près au milieu du mur. Il était appuyé sur un petit, un petit rebord dans la façade. Et se faisait pivoter le long de la façade latérale, de celle où il prenait appui, pour venir brosser avec une brosse à dents le nom de l'architecte Viollet-le-Duc, qu'il considérait comme étant... Il disait au jury qu'il considère que peut-être c'est pas Duchamp qui est le précurseur de l'art contemporain sous sa forme actuelle, mais que ce serait peut-être Viollet-le-Duc qui faisait des choses qui étaient contraires à l'idée de l'architecture qu'on se faisait à l'époque. Donc par exemple, il a refait des toitures en ardoise à Toulouse, alors que c'est le pays de la tuile. Créer comme ça des espèces de signes visuels forts dans la ville qui fonctionnent par opposition, par contrepoint. Et aussi, il avait ce projet assez fou de venir resculpter les Pyrénées pour les rendre plus... comment on appelle ça ? J'allais dire photogénique, mais il faudrait dire imagogénique peut-être. Et donc prémisse du Lantard peut-être. Et il disait ça pas forcément. En fait, Benoît, justement par rapport à cette idée de réalité, de fiction, et il n'impose pas ça comme une vérité, mais il veut plutôt venir avec ça, venir contredire les vérités, les certitudes existantes. Donc creuser comment le savoir se fait, comment il se construit et comment il devient auto-réflexif au bout d'un moment. Voilà. Et donc après, il poursuivait. Donc il emmenait le jury à l'intérieur du hall de l'école. Du hall de l'école où il y avait donc un tréteau qui était posé sur le côté, tréteau qu'il prend et qu'il ouvre, qu'il pose devant lui. Et il disait une phrase que j'ai oubliée, ça y est. Forcément, ça va encore être incomplet. En tout cas, il venait se lâcher en fait par-dessus ce tréteau. Le tréteau prenait appui sur son ventre. Et donc, il essayait de lâcher complètement prise et son corps aurait pu presque épouser comme ça la forme du tréteau. Mais évidemment, le corps n'est pas aussi flexible que ça. Donc, il n'était pas. Son corps n'épousait pas complètement ce tréteau, mais était toujours un peu presque maladroitement posé dessus avec son poids et tout ça. Donc c'est toute une réflexion sur comment notre corps peut ou ne pas se plier. Ça, c'était pas vraiment une phrase très française. Peut se plier ou pas aux contraintes architecturales, sociales données. Il poursuivait ensuite dans... Donc ça, c'est une action qui est très courte, en fait, et qui fait partie de ce qu'il qualifiait d'actions discrètes. Ce sont des actions qu'il faisait tout le long de son année, de diplôme, et qui recomposait ici dans une sorte de scénario presque de geste. Donc voilà, donc il emmenait les profs dans le couloir, un peu plus loin, qui est un espace, par contre, qui est aussi un espace d'exposition pour les étudiants, où il y a quatre colonnes dans ce couloir, deux qui sont vraiment dans le couloir et qui sont libres, et deux qui sont pris dans le mur. Et donc il les emmenait dans cet espace-là, où il y avait de nouveau deux tréteaux qu'il prenait, qu'il installait, sur lesquels il posait une planche, donc ça lui formait une table. Sur cette table, il prenait une feuille A3. C'était une feuille qu'il avait photocopiée à vide, sur le photocopieur à vide. Donc il en sort une feuille noircie, une sorte de représentation sorte de tautologie sur la reproduction, l'inspiration peut-être par extension. Et il prenait cette feuille, il la pliait une première fois horizontalement au milieu, tenait la feuille devant les profs, il disait « ligne de partage ». Après, il repliait la feuille une deuxième fois, perpendiculairement à la première, au premier pli, et il disait « ligne de séparation ». Après, il repliait la feuille diagonalement, dans un sens, redépliait, il disait « ligne d'attaque ». Après, il repliait pareil, perpendiculaire à la première diagonale, donc la deuxième diagonale, dépliait et disait « ligne de domination ». Parce qu'en fait, du coup, les lignes forment le drapeau de l'Union Jack. Après, il froissait la boule dans sa main, le papier dans sa main en boule, qu'il tenait vers le haut avec le poing fermé sur la boule de papier froissée. Il disait « ligne de révolte ». Après, il le dépliait, il disait « ligne de particules ». Après, il le déchirait au milieu et il disait « ligne de rupture ». Et après, il jetait les deux boules de papier ainsi obtenues. Donc il les prenait avec les deux mains et chacun, il jetait donc l'une vers la gauche et l'autre vers la droite, vers l'arrière. Il disait « ligne de fuite ». Et j'ai oublié de dire ça, il disait avant de faire son action avec le papier plié, il disait que justement Viollet-le-Duc disait que voir c'est dessiner c'est voir et voir c'est comprendre. Mais qu'est-ce qu'il en est si on ne sait pas trop dessiner? Est-ce que ça veut dire qu'on est dépourvu de la compréhension du monde? Et il disait, enfin pour lui justement, tracer. Est une forme de dessin et le pli est une forme de trace. Donc les plis qu'il aurait fait, ce serait une façon de voir le monde. Alors j'ai surveillé l'heure. Je crois que je vais devoir t'enregistrer la suite à un autre moment, ma chère Camille. Ouais. Eh bien, je te dis à plus tard.